Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Dans le sillage du reportage diffusé le dimanche de Pâques, l'art chemin de foi. Et pour clore cette page ouverte à Conques, le mardi de la Semaine Sainte, je vous propose de retrouver une dernière fois le frère Pierre-Adrien, recteur du sanctuaire, et Anne Remiguière, guide conférencière à l'Office de tourisme. Nous sommes dans l'abbatiale, et plus exactement encore dans les tribunes, devant nous, une forêt de chapiteaux.
Ici, nous avons une rare scène qui soit tirée des textes. On a beaucoup de thèmes associés au religieux, évidemment, au spirituel, mais qui soient tirés de la Bible, par les prophètes qu'on a vus tout à l'heure, ou des évangiles, on en a très peu. Comparativement à d'autres églises, si on pense à Vézelay, par exemple, il y a énormément de scènes tirées, ou Moissac, voilà, énormément de scènes tirées de la Bible ou des évangiles. Or, ici, on a l'Annonciation, avec d'un côté l'ange qui s'approche de la demeure de Marie, on voit l'arcature qui marque l'entrée. La gestuelle raconte l'histoire. On disait la chanson de geste parce que c'était mimé. On faisait de la belle gestuelle. Puis dans le sud, tout le monde sait qu'on parle beaucoup avec les mains. Donc là, roman, évidemment. Ici, oui, également. Alors, l'ange a le bras tendu, donc, comme pour donner son message. Marie
le reçoit, en fait.
Le reçoit, accepte le message divin, donc elle n'a pas juste l'écoute, hein, sinon la main serait à côté de l'oreille. Elle a la main contre la poitrine, c'est-à-dire côté cœur. Elle accepte ce message. Et elle s'apprête à s'incliner devant l'ange, puisqu'on voit qu'elle soulève le bas de sa robe comme pour faire la genouflexion. Alors dans cette sculpture, la particularité, c'est que c'est un chapiteau double. On a cette scène de ce côté-ci, ainsi que de l'autre côté. Donc ça veut dire que ce chapiteau, il était fait pour être vu. Tout à l'heure, je vous disais que ce n'était pas nécessairement catéchèse, mais peut-être que non. Peut-être que si, justement. C'est-à-dire, certains étaient peut-être trop pointus dans la symbolique, mais d'autres, les gens les comprenaient tout de suite parce qu'ils avaient les théâtres de mystère, on leur mimait, on leur racontait les scènes. Et alors, c'est la même disposition, on ne le voit pas d'ici, bien sûr, mais de l'autre côté, vous l'avez également. Donc, ça veut dire que c'est visible, peut-être d'en bas, si on a de bons yeux, et d'en face. Et d'en face, si on regarde où nous étions tout à l'heure, vous avez le chapiteau avec les prophètes et les anges. Donc l'annonce du Messie dans la Bible, l'annonciation dans le Nouveau Testament. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez évident. Il y avait une certaine logique. Et on est très près du cœur également, cœur spirituel. Est-ce que c'était le cas pour tous les chapiteaux ? Un mystère. C'est un espace aussi pour accueillir les fidèles, donc de grands espaces, c'est pareil. Avec une belle vue sur là où nous sommes passés tout à l'heure en hauteur. C'est là qu'on se rend compte, on était au perché. La coupole est bien visible d'ici. Elle culmine à 26 mètres du sol. Les réfections, donc on le remarque surtout par l'ajout des couleurs. Au centre, à la clé de voûte, les armoiries de l'abbé qui avait fait faire ce chantier de construction. Donc là, on est vraiment, on est de plein pied dans la Renaissance. On affiche son rôle, on le montre par son blason. Et tous les vestiges de la première coupole, c'est ce qui est au-dessous de l'octogone. Et côté nord, donc pas opposé un petit peu à la coupole, nous avons donc la scène de l'Annonciation. C'est un bel ensemble sculpté du XIIe siècle, avec des grands personnages qui font 1,60 m. On pense que c'est une sculpture qui a été déplacée de dessous le tympan à l'intérieur. Il y a une hypothèse selon laquelle ça a été fait comme ça. Une autre hypothèse qui dit que ça a toujours été là. Mais on est sur le même style que le tympan.
Mais on a la chance pour l'avoir aujourd'hui.
On retrouve l'architecture, la richesse du vêtement. Sur la partie centrale, on retrouve la gestuelle comme on a vu sur le petit chapiteau. la main de l'ange qui donne son message à Marie. Donc là, le message, il tient la banderole, et où il est écrit en archange Gabriel. Et Marie écoute le message. Mais par contre, ici, on a un petit personnage supplémentaire qui se situe derrière Marie. Il faut se remettre dans l'ambiance du XIIe siècle, où on racontait l'épisode donc, de l'Annonciation, en se basant sur des évangiles classés aujourd'hui apocryphes, l'évangile de Jacques le Majeur, où il est dit que quand l'ange apparaît, Marie est en train de filer le voile du temple. C'est une parabole, on peut dire, elle prépare la venue de Jésus. Évidemment, si c'est le voile du temple, l'ange apparaît, surprise, elle fait faire tomber son ouvrage, il ne va pas tomber à terre. Donc on met la petite servante derrière, qui est aussi une façon de dire servante du Seigneur. C'est pas le personnage principal, cette petite servante, mais elle est là. Ça fait partie de la geste aussi, façon peut-être dont on racontait l'histoire. Et dans l'art, on va reprendre ce petit personnage. Donc elle est située un petit peu derrière Marie. Elle a la taille d'une enfant, tout simplement.
Taille, oui, beaucoup plus
voilà. Et dans ses mains, elle tient la pelote. Ah, oui. Alors on le voit pas d'en bas, évidemment, mais elle tient la pelote. Alors on sait à Conques, notamment au XIe, XIIe, que Conques, les pratiques religieuses ont beaucoup évolué et que par le livre des miracles, on apprend qu'on chantait et on dansait jusqu'à minuit dans l'abbatiale.
C'était vraiment des lieux de vie.
C'était des chants religieux, c'était des chants occitans certes, mais c'était pour glorifier Sainte Foi ou autre. Et souvent les moines qui venaient de contrées un peu plus lointaines s'offusquaient de la chose. Donc Bernard d'Angers le premier qui a écrit le livre des miracles, c'est un petit peu offusqué de voir ce genre de pratique. Et les moines qui étaient ici depuis un petit moment, à cette époque, lui ont dit « Mais ne vous inquiétez pas, mon frère, vous allez vous y faire. » Vous savez que dans le sud, on est toujours un peu plus enjoué. Alors depuis, ça a changé. On demande quand même le silence dans l'abbatiale. Mais nous avons ici un témoignage d'une chanson très ancienne. On appelait ça des cantilènes, à l'époque romane. C'est une sorte de chant de troubadour. Mais avec une connotation religieuse, puisque c'est la chanson de Sainte Foi, du martyr de Sainte Foi. Donc c'est la reproduction, enfin une reproduction. L'original est dans des archives et il compte 30 couplets.
Tout cela est... les musiques ont été retrouvées
Oui, ça a été retrouvé au début du XXe siècle en entier.
Il y a des enregistrements qui ont été faits
Alors la musique, non.
Non.
La musique, on ne sait pas. C'était des musiques assez arabisantes, très andalouses, un petit
comme
peu.
Comme le livre vermeil de Montserrat, un peu, c'est
voilà,
ça, non ?
Et malheureusement, on n'a pas les partitions, ni quoi que ce soit au niveau du son, mais on a les mots.
Les textes, voilà.
Les textes. C'est 30 couplets, tout ça en occitan du XIe siècle. Donc c'est de la belle poésie. Et ça a été étudié depuis la redécouverte, au début XXe, ça a été largement étudié par les linguistes. Mais il y a des histoires de batailles, il y a des histoires de vikings, il y a des histoires de sarrasins, il y a des histoires de Charlemagne et d'empereurs. En fait, c'est tout mêlé au niveau historique, mais ça fait partie de ce style très, très populaire à l'époque. Bon, c'est peut-être ce qui était chanté et dansé. On a un témoignage ici dans cette strophe qui dit en occitan, excusez mon occitan parce qu'il est terrible, « Canso audi que espera tresca, tresca c'est la farandole, c'est un petit peu le « qu'in fun de raso espanesca ». Non funde parola grecesca né de linguae rasinesca, tal se slaus e plus que presca, ne plum cum pimens cum esca. Bon, ce qui s'est dit, en fait, c'est que la chanson était belle. C'est comme une farandole qui n'était pas de composition hispanique, ni même arabique, ni même grecque, mais qui était douce et suave comme le miel en brique. Bon, c'est la poésie.
Peccatores cives maridari.
frère Pierre-Adrien. Vous êtes le chantre ici de la communauté. J'aimerais que vous puissiez nous parler de l'importance du chant au sein de la communauté et de l'importance du chant justement dans l'ordre des prémontrés.
Le chant est une tradition très ancienne chez les prémontrés. Ça remonte à notre fondateur, Saint Norbert, qui va rentrer très jeune dans une collégiale, enfin comme chanoine, et puis ensuite il va aller à Aix-la-Chapelle, donc à la chapelle impériale, et dans sa jeunesse, il va être fasciné par la liturgie qu'il va y découvrir, qui à la fois disait le mystère de Dieu, mais aussi exprimait le faste et la grandeur de l'empereur. Et il va transmettre en fait cette formation qu'il a reçue jeune à l'ordre. Et donc la liturgie est toujours très importante et assez déployée chez les prémontrés. On aime l'encens, on aime les ornements pour dire la grandeur du mystère de Dieu, et on aime le chant. Et ça, c'est toujours très présent. Donc moi, je suis chantre à Conques. Je suis pas forcément le meilleur musicien, mais j'aime bien chanter. J'ai de la chance de pouvoir chanter.
Et de nous aider à prier.
Mais je me méfie de ça, de nous aider à prier, parce que...
De nous porter dans la ferme.
Oui, mais en fait, il y a une chose qui est très importante, que j'aime beaucoup, chaque année. C'est juste à la fin des vacances de novembre, de la Toussaint. Si vous voulez, l'été, presque tous les jours, tout le temps, à tous nos offices, il y a des personnes qui sont là. Et puis il y en a vraiment beaucoup, même au mois d'août, c'est plein. Et donc aux 5 offices de la journée. Et arrive la fin des vacances de la Toussaint, et là il y a un jour où on se retrouve juste les frères à chanter. Et j'aime beaucoup quand ça arrive, parce que j'ai l'impression de me recentrer sur l'essentiel. De dire, je suis pas là pour faire prier. Je suis là juste pour chanter le Seigneur avec mes frères.
Pour louer Dieu.
Pour louer Dieu. Et j'ai l'impression de retrouver mon axe. Parce que, après des mois et des mois, on finit presque par se dire, je suis là pour faire prier. Et non, je suis d'abord là pour prier, et pour chanter, et pour louer Dieu. Et si, en plus, notre communauté aide d'autres à prier, c'est merveilleux. Vous voyez ? La chose qui est importante, c'est ça, d'abord... je suis là pour louer Dieu. Alors c'est vrai, je suis au service de mes frères pour les aider dans la prière. Le chant, parce que c'est l'art que je trouve le plus gratuit. Vous voyez, la sculpture, il faut une pierre, il faut un marteau, ou il faut un morceau de bois à sculpter. La peinture, il faut de la couleur, des pigments. Un instrument de musique, il faut l'instrument de musique qu'il faut avoir sculpté. La danse, faut quand même des vêtements adaptés, hein. Donc tous les arts ont besoin d'un moyen, d'un outil. Dans le chant, il n'y a besoin que des cordes vocales.
L'organome.
Voilà, et c'est penser aux esclaves, ils n'ont rien, et les négros spirituels, ils peuvent chanter. Voilà. Donc c'est un art qui ne coûte rien. Et ça, cette gratuité du chant s'accorde bien avec la grâce, avec la... Et l'action de grâce, remercier pour tout ce qui nous a été donné gracieusement par Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après,
et le souffle aussi.
Alors, il y a le souffle. Moi, je respire pas très bien. Je sais pas si ça fait. Oui, c'est vivant, c'est vrai. Mais il y a aussi une question de libération quand même dans le chant. Il faut se livrer quand même hein, dans le chant. Il faut s'abandonner.
Tout est lié. Ouais. Vous me parliez des captifs tout à l'heure. On parlait de Saint-Foy, ouais, ouais. Des chaînes. On parlait de libération. On a parlé du souffle. Ouais. Ouais. Tout est lié.
Oui, chanter, ça fait du bien physiquement. Ouais, je pense. Hein. Ça détend. Bon, je suis très tendu. Comme... Ça me détend, ça me libère. Ça m'implique.
Et en même temps, c'est rigoureux aussi.
C'est rigoureux, mais attention, parce que je ne suis pas là pour produire le plus beau chant de la terre. Je ne suis pas dans un concert. À l'office, on vient comme on est, quoi. Le but, c'est de faire le mieux qu'on peut. Mais l'essentiel, c'est d'y mettre son cœur.
La beauté.
Il n'y a pas de perfection. Bon, j'ai pas le trac. J'ai pas le trac quand je vais chanter un office en me disant mon Dieu, il faut que ce soit super beau. Si je me plante, ben je me trompe, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est compris. Les mélodies, elles sont relativement simples parce que s'il faut se faire des nœuds de cerveau pour réussir à chanter, ben on va sortir de la prière. Donc on n'est pas dans une performance artistique. Il y a une dimension de beauté et d'art, mais moi, je ne suis pas un musicien professionnel qui a un public et il faut absolument réussir à dire la quintessence de la musique, vous voyez. Donc je n'ai pas une formation, j'ai fait du violon, j'étais très mauvais quand j'étais petit, mais enfin c'est... Donc j'ai un peu de solfège, mais je ne suis pas un musicien exceptionnel, hein. Voilà, on vient comme on est. Et ce qui est beau aussi, vous voyez, c'est que c'est comme dans la vie. On vient tous comme on est. Il y en a qui chantent un peu faux, il y en a qui chantent trop fort, il y en a qui. Mais on va essayer ensemble de faire une harmonie et d'être ensemble. Et par le chant, il y a quand même l'union des voix. Qui se fait, et par là j'espère l'union des cœurs, on vit quelque chose de la fraternité aussi à travers ce chant. Ça c'est beau aussi. On chante en français parce que, et ça s'est décidé assez rapidement dans notre avis, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le chant de l'Église qu'on chante. Donc si l'Église chante en français, on chante en français.
C'est le chant de l'Église.
Voilà. Donc on ne cherche pas à faire un chant...
C'est pas de l'anthropologie du chant.
On n'est pas des historiens du chant, chant oui, et puis on n'a pas un chant spécifique où... Ou comme il n'y a que nous qui chantons, on peut faire des choses extrêmement sophistiquées. Puis en plus, on est. L'essentiel, c'est que tout le monde chante. Hein. C'est pas que ce soit une perfection. Hein. Mais parfois, on souffre aussi, hein, parce que quand c'est faux, c'est faux. Ah oui, bah, c'est comme dans la vie. Voilà, on y va, on claudique. Ce que j'aime bien aussi dans le chant, c'est que justement, il y a cette dimension artistique, poétique. On n'est pas là pour donner des informations, pour réfléchir ou pour dire la vérité vraie sur Dieu. Non, on est là pour le louer. Et le chant, ça permet de... Enfin, je ne suis pas forcément en train de me dire...
Ou de se mettre en sa présence.
Voilà ce que je suis en train de lire. Ouais. Enfin, non. Non, je chante... Je chante ce qui est écrit. Et puis après, j'essaye d'accorder mon cœur au chant. Et ça, c'est aussi, une... oui, c'est aussi un aspect qui est important. C'est que dans le chant, bah, parfois, en particulier le vendredi, le vendredi, on va avoir le psaume 50, on va avoir c'est très sombre, c'est très obscur, enfin, on va dans la grande obscurité, et peut-être qu'on est dans la joie. Et à travers le chant, je trouve que ça dilate notre cœur, parce qu'on va être joyeux, quand on va chanter, je sais pas, un psaume 150, on va être joyeux avec ceux qui sont joyeux, et puis on va être pauvre, triste, implorant avec ceux qui sont implorants. Et parfois, oui, il y a des psaumes, c'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre, là. Mais il y en a qui le vivent, et ben, ça me met en communion avec eux. Et cet aspect-là, je trouve beau, ça nous aide à sortir de nous-mêmes. Oui. Après, bon, parfois, il y a des versets, on n'a pas trop envie de les chanter, hein, mais on les chante. Voilà.
C'est l'obéissance, c'est ça? C'est l'obéissance.
Oui, et puis non, c'est se dire qu'on est, on fait partie de l'Église. Hein, mm-hmm. On est pas, ouais, on s'accorde à l'Église, et c'est pas l'Église qui. Enfin.
Comme on disait, on n'est pas chrétien tout seul. On se fait pas chrétien tout seul.
Oui, oui.
Sa foi.
On se fait pas
seul,
sa
quoi.
Petite spiritualité dans son coin. Voilà. Enfin, on fait pas.
Ce qui me convient, ce qui voilà. Me convient pas. Oui. Je prends un petit peu
non,
de là,
non,
un petit peu de
ça,
là.
C'est une, enfin bon. Pour moi, c'est une des grandes impasses spirituelles de notre époque contemporaine.
De picorer des petits morceaux.
Oui, on est en grand danger de devenir des idolâtres. Hein. On fait la petite religion qui nous correspond, mais notre religion devient une projection de nous-mêmes. C'est pas très intéressant. Hein. On va pas se dilater le cœur, on va pas s'élargir à ce qui est différent de nous. Et donc, ben, si notre cœur ben, est étriqué, ben, on aura une vision de Dieu étriquée, une vision de l'humanité étriquée. Là, avec une communauté, ben, elle nous rappelle qu'on n'a pas le « là » sur le mystère de Dieu et le mystère de l'homme.
Une communauté qui est là pour bousculer aussi, peut-être, aussi, ouais, comme un garde-fou.
Mais comme la liturgie nous bouscule. Ouais. Ouais. Les textes, l'évangile, si on l'écoute, parfois, c'est bousculant. Hein. Voilà, je me rappellerai toujours... Un jour, je vais à une messe, et puis c'est une messe de funérailles. Alors, comme je suis recteur du sanctuaire, j'ai pas l'habitude, je connais pas la communauté, vous voyez, de la paroisse. Je vais pas beaucoup. Une fois, je vais remplacer, puis je vais célébrer une messe. Bon, bah. Je prie les évangiles, les textes, puis j'écris mon homélie, voilà. J'ai pas l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire. Je commente les écritures qui sont assez corrosives et j'essaye d'aider à ce que ce soit plus incarné. Et il y avait donc toute une famille, visiblement, qui était là. Alors bon, je fais mon homélie et puis... À la fin de la messe, les gens étaient très froids. Mais souvent, quand il y a des gens qui viennent pas souvent à la messe, ils sont un peu froids, quoi. Ça fait c'est une liturgie un peu empesée parce qu'ils connaissent pas les chants, tout ça. Bon, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je vois pas trop. Et puis après, on me dit oui, mais qu'est-ce que t'as dit ? Les gens des funérailles étaient vraiment très très choqués. Je dis bah. Rien dit d'extraordinaire. Mais je pense, en fait, comme je connaissais pas l'histoire de cette famille, et je connaissais pas, je suis arrivé comme ça, que j'ai dit quelque chose qui, je sais pas, heureusement ou malheureusement, les a touchés au cœur, et ils ont dû penser que j'avais réfléchi en me disant « Ah, il faut que je leur dise ça !» Mais non, pas du tout, c'était juste un commentaire d'évangile à partir de... Bon, voilà. Ouais, la foi, ça bouscule.
Et au fil de ces reportages à Conques, bien des portes se sont ouvertes, ouverte vers l'infini, vers une beauté qui nous a touchés au plus profond de nous-mêmes, nous a élevés au-delà du visible.